DW. Pulsation.
À l'occasion du centenaire du Bauhaus, le courant artistique du début du XXe siècle en Allemagne, ses applications dans l'architecture à travers le monde sont à l'honneur, et notamment à l'université d'Ile-Ife au Nigeria. Mais c'est à Lagos que l'héritage du Bauhaus se fait également sentir. Nous irons à la rencontre d'une jeune architecte qui le perpétue. En fin d'émission, nous rendrons hommage à un grand nom du jazz européen, dont c'est le 109e anniversaire de la naissance ce mercredi. Mais tout d'abord, nous nous penchons sur le mot du jour, milliardaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Alors que le sommet de Davos a débuté, des voix s'élèvent pour demander plus d'égalité dans le monde, sachant que d'après certains calculs, les 26 personnes les plus riches détiendraient autant que les 3,8 milliards d'individus les plus pauvres de la planète. Évidemment, ce sont des milliardaires. Alors, que signifie ce terme et comment a-t-il évolué ? Un milliardaire est une personne qui dispose d'une fortune d'au moins 1 milliard d'une monnaie, généralement des dollars américains, des euros ou des livres sterling. Le concept de milliardaire apparaît en Occident à la fin du 19e siècle. Auparavant, c'est la notion de multimillionnaire qui s'est mise en place dès le début du 18e siècle. Elle est liée à la montée du mercantilisme et du libéralisme, deux idéologies qui ont permis de décupler les profits de personnes privées. Jusqu'alors, c'était plutôt les royaumes ou les pays qui étaient riches. Le premier milliardaire officiellement reconnu comme tel est l'américain John Rockefeller, en 1916, qui avait fait fortune dans le pétrole. Depuis, le nombre de milliardaires n'a cessé d'augmenter, aidé en cela par le capitalisme florissant et l'expansion de la bourse. Le magazine Forbes publie chaque année une liste des milliardaires en dollars du monde. En 2010, il y avait officiellement 1011 milliardaires en dollars dans le monde. En 2013, 1426, pour un montant cumulé de 5400 milliards de dollars. En 2017, on compte 2043 milliardaires dans le monde, dont seulement 11% de femmes, pour la plupart de riches héritières. L'année dernière, en 2018, selon l'ONG Oxfam, la richesse des milliardaires dans le monde a augmenté de 900 milliards, soit au rythme de 2,5 milliards par jour, alors que celle de la moitié la plus pauvre de la population de la planète a chuté de 11%. Concernant l'Afrique, le nombre de milliardaires du continent est passé de 23 à 20 l'année dernière, d'après le dernier classement de Forbes. Leur fortune globale est estimée à 68,7 milliards de dollars. Le Nigérian Aliko Dangote, spécialiste du ciment, reste en tête de liste en Afrique, devant son compatriote Mike Adenuga et le Sud-Africain Nicky Oppenheimer. Une chose est sûre, les richesses ne sont pas redistribuées comme elles le devraient, pour éradiquer la pauvreté. Mais l'élite économique à Davos ne semble pas prête à changer les choses en ce sens. Pour l'instant, les appels à une taxation fiscale plus importante des riches et des grandes entreprises se heurtent à la loi des marchés.
La Côte d'Azur, des bleus.
Petite pause musicale avec l'iranienne Shahrzad Sepanlou qui chante, non sans une pointe d'ironie, « C'est facile d'être riche ». La DW, c'est Pulsation, le magazine Jeune et Culture. Il est Ife, dans le sud-ouest du Nigeria. Un campus pensé et conçu par l'architecte israélien Arié Sharon. Ouvert, épuré, adapté au climat et aux besoins du pays. Un message clair dans le style du Bauhaus. L'université a ouvert ses portes en 1962, 2 ans seulement après l'indépendance du Nigeria. Elle est donc rapidement devenue un symbole pour la toute jeune démocratie. Les idées du Bauhaus ont-elles un potentiel dans le futur ? Le Bauhaus permet-il de répondre à une question centrale ? Comment voulons-nous et comment pouvons-nous vivre ? Une question qui se pose aussi dans la métropole nigériane, Lagos, une ville en pleine transformation. Tosin Oshinowo est une architecte, pur produit de la modernité. Elle a étudié à Londres, certes, mais Il et Ife reste pour elle une source d'inspiration.
Le modernisme est arrivé chez nous dans les années 1960, au début du post-colonialisme. À l'époque, les architectes étaient modernistes et ils en ont imprégné la ville de Lagos dans sa structure. Le modernisme naissant des années 40, 50 et 60 nous influence jusqu'aujourd'hui.
Tosin Oshinowu est revenue. Elle vit et travaille à Lagos parce qu'elle adore la créativité et la pulsation qui animent la ville. Lagos, qui ne cesse de grandir, est aujourd'hui déjà la deuxième plus grande ville d'Afrique et une des plus peuplées de la Terre. C'est entre colonialisme et modernisme que les architectes nigérians cherchent leur propre expression qui puisse répondre aux défis actuels, ceux que posent les énormes agglomérations urbaines.
L'architecture africaine a longtemps été considérée comme rurale et non urbaine. Nous devons être réalistes à présent et adapter notre conception à la ville telle que nous la vivons. Il faut se confronter au fait que nous sommes 18, peut-être même 22 millions d'habitants et que nous devons vivre dans des espaces de plus en plus restreints.
C'est le cas d'ailleurs à Lekki Phase 1, un nouveau quartier de Lagos, super moderne et cher. Ici, Tosi Oshinowo construit des blocs d'habitation minimalistes comme on les voit naître partout dans le monde. L'architecture et les formes de vie s'harmonisent.
Nous devons penser à l'avenir, observer comment la vie urbaine se développe. Le monde entier change et Lagos plus particulièrement. Les espaces de vie se réduisent, la structure démographique se transforme et l'entité familiale est en train de se redéfinir. Notre architecture doit absolument prendre tout cela en compte.
Le résultat est fonctionnel, ergonomique et économise de la place. Et la jeune architecte est satisfaite lorsqu'elle visite un deux pièces standard avec cuisine ouverte. Elle constate que l'espace est très bien utilisé. Un tel appartement n'est pas habituel à Lagos, mais il correspond bien aux besoins des jeunes adultes de la génération Y, nés entre 1980 et 2000, qui sont plutôt rarement à la maison.
Tout a une fonction ici. Il n'y a pas de décoration dans ce bâtiment. Nous n'utilisons que des lignes droites et des couleurs sobres afin de mettre l'accent sur la forme. Je trouve que c'est très réussi.
Au contraire, dans les quartiers des nouveaux riches, la sobriété n'est pas de mise. Beaucoup d'ornements superflus, des colonnes, des bâtiments surchargés en style colonial. Selon Tosi, il s'agit d'une mode.
La mode est toujours liée à un facteur temps. Qui sait si cet immeuble sera encore apprécié dans 10 ans? Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments différents. Les bâtiments doivent être intemporels. Ils n'ont pas de raison d'être à la mode.
L'université d'Il et Ife, elle, est intemporelle. Un modèle architectural, une construction qui rayonne. Et grâce à elle, l'Afrique fait partie des endroits où une série d'événements internationaux ont lieu à l'occasion des 100 ans de Bauhaus qui présentent les applications de la fameuse école à travers le monde entier. Tosin Oshinowu rencontre des collègues dont certains partagent ses idées. En tout cas, une nouvelle génération d'architectes nigérians qui cherchent des réponses à des questions urgentes et qui, à ce faire, redécouvrent le modernisme de Bauhaus. Pourquoi cette école perdure ? Anne-Marie Yegi, du Centre des archives Bauhaus à Berlin, a sa petite idée.
Ce qui rend le Bauhaus si vivant jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a suivi des idées fondamentales. Il s'est posé des questions comme « Comment voulons-nous vivre dans le futur ?»
Merci à Andrea Horak et Adrian Krisch qui ont recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
La guitare incomparable de Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt. Le guitariste de jazz est né le 23 janvier 1910 à Liberchi, aujourd'hui en Belgique. Son style de jeu et de composition a ensuite été suivi d'adeptes donnant naissance à un style de jazz à part entière, le jazz manouche. En effet, Django est issu d'une famille sinté, que l'on appelle en France les Manouches. D'ailleurs, il est né dans une roulotte, car sa famille nomade était toujours sur la route à travers l'Europe. Il est élevé par sa mère, et adolescent déjà, il fait des merveilles au banjo et enregistre un disque dès l'âge de 12 ou 13 ans. Mais un incendie dans la roulotte lui vaut de graves brûlures et il s'en sort après 18 mois d'hôpital avec deux doigts en moins et la main paralysée. Son frère lui avait amené une guitare à l'hôpital où le banjo était trop bruyant et l'instrument va lui servir d'outil pour sa rééducation. À force de persévérance et de passion, Django va développer une technique bien particulière pour pouvoir jouer de la guitare solo avec deux doigts, index et majeur, comme un virtuose. Dès 1930, il va connaître un grand succès en France et en Europe et partira même en tournée aux États-Unis avec l'orchestre de Duke Ellington. Il est encore aujourd'hui un des guitaristes les plus respectés et influents de l'histoire du jazz. Voici à présent en hommage à Django Reinhardt et Billie Holiday une chanson de la Marocaine Zahra Hindi dont on dit que la chanteuse berbère y allie la guitare du maître manouche au phrasé de la diva du jazz américain. Beautiful Tango.
Beautiful Tango, take me by the hand. Beautiful Tango, until you make me dance. How sweet it can be.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast comme d'habitude sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programme sur la DW. Au revoir.
We've got time, beautiful strength.